pouvoir possède la radio et la télévision.
Nous n'allons pas avoir dans toutes les villes françaises plusieurs radios, plusieurs télévisions. C'est impossible, ce serait d'ailleurs ruineux. Qu'est-ce que ça serait si nous avions plusieurs centaines de télévisions ou de radios en France ?
François Mitterrand est élu président de la République.
Le tournant économique du septennat de François Mitterrand a déjà eu lieu avec la mise en œuvre de la politique de rigueur depuis juin 82.
C'est que, en tant que président du RPR, je ne me suis jamais occupé des problèmes de financement. Je ne peux pas y croire.
Descends, on peut le dire. Descends, on peut. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs, viens.
Radio Garage 1984, deuxième épisode. Du gauchisme au punk rock. Salut tout le monde, Radio Garage, deuxième épisode de notre série dédiée aux origines de Radio Béton. Bienvenue dans la France de 1984, une France sans ordinateur, sans internet, sans portable. Une France qui découvre les radios libres, une France avec 5 ou 6 chaînes de télé. Une France où pour le petit blanc moyen, la musique de jeunes, c'est ce qu'on appelle le rock et ses déclinaisons. Une France qui continue à découvrir la crise et qui n'a encore rien vu. Et c'est dans cette France provinciale qu'une bande de jeunes se retrouve dans le garage de Véronique et Pascal Robert pour faire du rock à la radio. Rock à la radio à la façon de Bijoux en 1981, année de l'autorisation des radios libres à la suite de l'élection de François Mitterrand. Mais avant cela, il y a en Touraine Radio Transistour, radio pirate créée en 1978 par des gauchistes. Pour caricaturer, Transistour est tenu par des gauchos lénifiants qui écoutent du jazz et qui se sentent débordés par une bande de rockers irrévérencieux. Nous allons revenir sur les propos de Pascal, un acteur de cette époque-là, acteur toujours actif dans la vie de Radio Béton. Sur l'édition 2010 de Quart de Tour, Pascal servait dans un bar du festival habillé en curé, mais c'était pas du vin de messe. Quoi qu'il en soit, pour Pascal, la fin de Transistour est l'un des symboles d'un changement d'époque, des 70s aux 80s.
La fin de Transistour, ça a été un petit peu la fin du gauchisme.
Transistour, ça a été...
Transistour a été monté en 78, j'y étais. Non, en 78, c'était le mouvement des radios libres. Donc effectivement, il y a eu des gens qui se sont regroupés, beaucoup effectivement d'anciens gauchistes, mais qui venaient plutôt des Mao ou choses comme ça.
Voilà.
Voilà.
C'était Alain Gachet, dit tonton au piano.
Donc la fin du gauchisme.
Transistor a été monté donc par une bande de gens, beaucoup d'anciens gauchistes, quelques autres qui venaient plutôt des milieux un peu plus libertaires, notamment moi j'avais travaillé avant sur un petit mensuel qui existait en Touraine qui s'appelait le Petit Rouge de Touraine, qu'on avait monté en 76, à la suite un petit peu de Libé et choses comme ça, quoi. Et donc Transistour, on a vécu pendant 3 ans sous la prohibition, c'est-à-dire avec des émissions clandestines, on se faisait brouiller, on les mettait en voiture, enfin bon, c'était assez rigolo.
Donc la légende urbaine des fous furieux qui avaient un émetteur ambulant dans une voiture.
On était en général dans un parking qui était sur Gramont, par là, parce qu'il faut être en hauteur quand même pour émettre. C'est vrai qu'à l'époque, la bande FM était beaucoup moins polluée que maintenant. Il y avait de la place. C'est vrai qu'avec un petit émetteur de merde qui faisait 10 watts, on émettait jusqu'à Mont-Louis. On émettait donc en voiture, c'est-à-dire qu'on enregistrait les émissions, parfois publiquement, et ensuite on passait les émissions, c'était une demi-heure ou une heure par semaine.
Et vous avertissiez les auditeurs, il y avait des fly, non, pour dire tel jour, à telle heure, sur telle fréquence.
Oui, oui, c'était un rendez-vous régulier, il me semble que c'était le vendredi à 19h. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui écoutaient. De toute façon, on était complètement brouillés. On avait un émetteur de merde qui émettait sur 3 ou 4 fréquences à la fois. Et je me demande d'ailleurs si le vendredi soir, les avions pouvaient atterrir à l'aéroport, parce qu'il paraît qu'on dégueulait de partout. Et on arrivait même à avoir 3 brouilleurs contre nous sur 3 fréquences différentes le soir. Dans notre système, c'était très simple. C'est-à-dire qu'on avait un petit couple gentil, propre sur eux, avec une belle voiture, qui eux avaient l'émetteur dans la voiture avec une antenne d'autoradio classique sur le toit, quoi. Et autour, bah, il y avait 3-4 bagnoles avec des chevelus, des bagnoles, des 403, des 4L avec des autocollants en Larzac et antinucléaire partout. Et dès qu'on voyait les flics, et bah, toutes les bagnoles et les chevelus se barraient en courant. Et bah, le petit couple gentil dans la belle voiture coupait juste l'émetteur. On s'est fait contrôler plusieurs fois, mais on s'est jamais fait piquer l'émetteur.
Moi, je voulais juste ajouter, et là, c'est un scoop que je vous réserve depuis pas mal d'années. Alors, je tairai mes sources, mais j'ai un relevé d'écoute de Radio Transistour par un bon citoyen qui envoyait à la police son rapport d'écoute de Radio Transistour dans les années 79-80. Ils ont émis de telle heure à telle heure, ils ont dit ça, machin, et bon.
Et alors, ils se disaient des choses vraiment épouvantables sur cette antenne ?
Ah, sans doute, je sais pas, je l'écoutais pas.
Dans le micro, je rigole, les fous ont la parole. Alors, hop.
Radio pirate.
Radio. Tout le monde s'éclate.
À l'époque, c'était, un organe militant, quoi. C'est-à-dire, on faisait parler les gens qui faisaient quelque chose au niveau de l'extrême gauche. J'ai même réussi à faire une émission chez moi où il y avait ensemble les gens du NPA et les gens du comité de soutien à Action Directe. Ça avait été très drôle. Mais on avait réussi à les faire débattre ensemble. Mais bon, de toute façon, on était complètement brouillés. On avait même fait une fois une émission, comme on était tellement brouillés, on avait fait une émission où il n'y avait que des crrrr pendant une demi-heure, et ils nous ont quand même brouillés.
Tonton. Oui, moi, j'étais pas là tout au début, j'étais en train de vadrouiller ailleurs, très loin, et je me suis fait raconter quelque temps après, il paraîtrait-il que la première émission a dû durer à peu près 30 secondes, parce que ils avaient tout préparé vachement bien, ils avaient tout branché et tout, ils commencent à émettre, et là, on voit une fumée qui sort du coffre de la voiture, en 3 secondes, ils avaient cramé l'émetteur. Il paraît que donc la première émission de Radio Transistour a dû durer 10 secondes, quoi.
On a quand même beaucoup changé d'émetteur. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des réseaux d'électroniciens fous qui faisaient des émetteurs. Et bon, c'était très drôle. Ça a duré donc de 78 à 80. Et puis bon, en 80, libération des ondes par Mitterrand, quoi. C'est-à-dire la gauche au pouvoir, tout ce qui marchait un petit peu au niveau social, on a réussi à l'arracher. Hein. Ça a été le nucléaire, le Larzac et les radios libres. Le reste, comme il n'y avait pas de mouvement social, il ne s'est rien passé. Et donc, explosion sur les ondes, donc Transistour, Radio Historique. On a donc trouvé un studio rue Lamartine. On a racheté du matériel parce que celui qu'on avait était quand même vraiment très très pourri. Et puis, bon, on a émis quasiment toute la journée pendant 3 ans, quoi. Suite à ça, effectivement, c'est agrégé pas mal de gens qui n'étaient pas du tout du milieu originel de Transistour, qui venaient donc de l'extrême gauche et des milieux plutôt libertaires. Il y avait donc ce qu'on appelait un noyau historique, ce qu'on appelait à l'époque le noyau historique, et tout un tas de gens qui gravitaient autour, qui faisaient des émissions, qui étaient plus branchés sur le rock, sur les nouvelles cultures, et qui en fait n'ont pas du tout été acceptés par ce qu'on appelait le noyau historique, parce que bon, c'est des gens qui étaient très stricts au niveau du discours.
Bon, n'allez pas croire que tous les gauchistes de l'époque se contentaient de dire la messe, il y avait aussi quelques allumés qui s'agitaient.
Il y a eu effectivement sur la fin des années 70 un groupe de gens qui était un petit peu plus loin que les autonomes, et qui effectivement avait mis une bombe au palais de justice, une bombe donc qui a fait quelques dégâts très limités. Les flics sont effectivement tombés très vite sur les auteurs, et bon, ils ont fait quelques années de tôle, quoi.
Bon, il n'y avait pas de gens de Transistour dedans.
Non, il n'y avait pas de gens de Transistour, on les connaissait, puisque effectivement tout le monde savait qui c'était sur Tours, c'est pour ça que les flics n'ont pas été très loin à chercher. Il y avait des gens qui sont maintenant en béton d'ailleurs. Mais je ne dénoncerai pas.
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace. Plus tard est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est sinistré, mais c'est tout conséquent de nous dire que la France avance alors qu'elle pense. Par la répression, stopper net la délinquance. Il faut plaire un peu de bon sens, les cons ne régleront pas l'état d'urgence à tous. Ce qui m'amène à me demander, mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre méquette? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre méquette? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre méquette?
Ce sera de faire nos enfants.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre méquette? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre méquette? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre méquette?
Il est bon qu'on y pense, il est temps que la France daigne prendre conscience de toutes ses offenses. Face de ses hontes, des leçons à mon compte. Mais quand bien même la coupe est pleine, l'histoire l'enseigne, nos chansons vaines. Alors
arrêtons de saut,
plutôt que cela traîne, on ne traîne. Mais encore plus vaine, une égion ne pourra délirer ce système.
Oh non. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre méquette? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre méquette? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre méquette?
Ce sera du père nos enfants.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre méquette? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre méquette?
Pourquoi les anciens disent qu'on ne rattrape plus? Qu'on ne rattrape plus?
C'est clair!
Antisocial, bootleg de Trust et NTM que l'on doit à Lou et Placido. Trust a sorti l'original d'Antisocial en 1980, soit 2 ans avant la création, dans l'illégalité, de Radio Transistour. Vous allez à présent accueillir Jean-Michel, qui dans les années 80 tenait avec son comparse Phil Mann un magasin de disques qui s'appelait Vinylium, un temple du rock'n'roll. Jean-Mi, il faisait partie de la bande de rockers qui s'était fait virer de Radio Transistour. Après s'être fait virer de Radio Cactus, une autre radio tourangelle. Bref, viré de partout.
Je suis arrivé à Transistour, je fais partie des sales rockers qui sont arrivés et qui ont fait peur à tous ces gauchistes qui avaient une ligne très dure. En fait, nous, on est arrivés avec Pascal et puis Phil Mann. On est arrivés d'une radio qui s'appelait Radio Cactus, où on s'est fait virer parce que Pascal, à l'époque, on ne mettait pas 24 heures sur 24. Et il y avait les fermetures d'antenne le soir. Et sur cette radio, tous les soirs, il y avait une fille qui était là, qui avait juste la voix, en fait, qui disait « Je vous embrasse, dormez bien ». Et le soir, Pascal, après une émission, qui était une émission où il diffusait, comme d'habitude, son émission qui s'appelait « Pirate », et il passait un concert de Foutre, groupe punk de Tours, mais historique, mémorable, pour moi, un des grands groupes de la scène punk française. Et Pascal a fini en disant, au lieu de dire « je vous embrasse », il a dit « je vous encule ». Donc le lendemain matin, Pascal et Véro virés, donc Jean-Mi et Filmal ont dit bah, « on suit aussi, nous on est virés, parce qu'on ne va pas laisser notre copain comme ça ». C'est comme ça qu'on est arrivé à Transistour. Et donc on arrive à Transistour, ça se passe plutôt bien au début. Parce qu'on amène, je pense, à un espèce de 109, c'est vrai qu'on envahit un peu l'antenne en fait. C'est peut-être ça ce qui leur a fait peur, c'est qu'avant c'était plus jazz, très comme ça. Mais au début ça se passe bien. Plutôt très bien, parce qu'il y a les fêtes, on participe, on amène vraiment ça. Mais je crois qu'ils ont flippé un petit peu. Pour moi, là où ils ont eu flippé vraiment, c'est il y a eu une venue de Le Pen à Tours. Donc Le Pen, meeting à la mairie. Nous, on appelait carrément à casser la gueule à Le Pen. Et ils ont flippé, et les gauchistes ont flippé. Donc il y a eu manifestation, mais ils n'ont pas déplié la pancarte Radio Transistour. Des gens qui sont là ce soir, que je ne nommerai pas, ont jeté des cailloux sur la mairie, voire fracassé un carreau. Et ça, ça leur a pas plu. Et je crois qu'ils ont commencé à flipper là. Pour les activistes, c'était pas très fort.
Gauchisme au punk rock, c'est le deuxième épisode de cette série Radio Garage, où revoilà Pascal, qui, fin des années 70, faisait partie de la bande de Radio Transistour.
T'as quel âge toi Pascal en 81 ?
En 81, je dois avoir dans les...
10 minutes de pause. On peut passer un peu de publicité.
Dans les 25 ans peut-être, ouais.
Toi, Claude ?
Moi j'avais 25 ans en 80.
T'étais déjà tonton toi en 80 ?
Oui, on m'appelait pas encore vieillard quand j'arrivais dans les studios de Radio Béton, mais j'avais 29 ans. Et alors c'était marrant parce que les tout débuts de Radio Transistour, j'étais pas là. Je faisais partie de cette petite bande qui avait fait le journal Le Petit Rouge de Touraine. J'étais parti bourlinguer un peu à l'étranger. Et quand je suis revenu, c'était juste après 81, j'étais sur l'élection de Mitterrand, j'étais dans un petit patelin des Deux-Sèvres, et j'ai dû revenir à Tours, je pense, quelques mois après. Bon, j'avais laissé quelque chose qui était complètement en gestation, et puis bon, là j'arrive, je retrouve quelque chose de bien installé, qui avait l'air de tourner. Et alors c'est marrant parce que j'étais déjà le cul entre deux chaises, avec un espèce de statut de grand ancien déjà.
Le cul entre deux chaises entre les gauchistes et les rockers ?
Complètement, parce qu'il m'avait un peu catalogué en disant « tiens, c'est le grand ancien qui revient, donc il va être plutôt du côté des militants ». Moi, très vite, j'ai pas pu supporter la bande de soi-disant militants, parce que faut savoir que qu'est-ce que c'est que des militants, on en connaît tous. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des idées plein les tripes, qui sont prêts à se battre pour ça. Les gens qui étaient à la tête de Radio Transistour à l'époque, c'était pas des militants. C'était des gens qui avaient des plans de carrière, c'était des petits cons d'arrivistes, ils sont d'ailleurs arrivés, on peut les citer, il y en a un, je m'en fous qu'il me fasse un procès, c'est un enculé, il s'appelle Jean-Yves Perrin, il a France 2 maintenant, donc il est arrivé. Ces gens-là, ils avaient envie de faire des choses pour leur petit destin à eux, le destin collectif, à la limite, ça passait en second.
Il y en a un qui n'est pas d'accord là.
Non, j'étais pas dans l'histoire, mais c'est juste
Jean-Michel.
De l'extérieur, je suis pas aussi radical qu'Alain là-dessus. J'avais pas l'impression qu'ils avaient un plan de carrière à l'époque.
La rupture s'est faite un peu en 83-84, où ils ont suivi un petit peu l'exemple de Libé, avec le professionnalisme de Libé par Julie et choses comme ça. Ils considéraient qu'ils avaient grandi, que leurs amusements politiques de leur jeunesse étaient finis et qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Et ils se sont dit qu'effectivement, les médias et la radio, ça pouvait être une chose intéressante pour eux.
Bonsoir à tous. On réunit ce soir sur le plateau d'Apostrophe en direct trois intellectuels et un chef d'entreprise. En mai 68, ils avaient 20 ans. Et en épigraphe de cette émission, je voudrais vous citer une publicité que vous avez probablement lue dans vos quotidiens. Cette publicité dit ceci. En mai 68, on a refait le monde. En mai 86, on refait la cuisine.
il y a eu effectivement cette tension donc, entre les nouveaux qui faisaient des choses, qui étaient passionnés, et eux qui étaient uniquement dans un discours gauchiste mais qui ne représenteraient plus rien. Et je repars effectivement sur ce qu'a dit Jean-Mi, sur le meeting de Le Pen, parce que je pense que ça a été un déclencheur, c'est que eux qui se prenaient donc pour la conscience politique ont été en fait surpris par tous ces gens qui méprisaient complètement au niveau politique. Et je me rappelle que pendant une semaine, on a fait une radio anti-Le Pen, méchante, et ça les a surpris.
Filman et Tonton à l'antenne tous les après-midi. Moi, je me rappelle que je travaillais, j'étais un peu indépendant, donc je revenais, moi, je quittais mon boulot pour venir, parce que c'était une super semaine. Et ils appelaient carrément à l'émeute. Hein, tous les deux, avec Filman, vous étiez à l'antenne tous les après-midi, vous appeliez à l'émeute pour la manif de Le Pen.
Très clairement, oui. Très clairement. Et puis les autres, on ne les a pas vus le soir de la manif.
Ça s'est passé comme j'ai dit. Il y avait la banderole pliée, ouais. Mais ils n'ont pas osé déplier la banderole.
À l'époque, le rocker est vachement plus gauchiste que ceux qui sont censés être des gauchistes.
Il est plus dans la réalité.
Ouais, voilà.
Et je pense que c'était ça. Il y a eu aussi tout un tas de choses, et je pense que peut-être les filles en ont parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait le discours gauchiste sur le féminisme, mais par contre, eux, c'était que des mecs. Leur nana était là de temps en temps, mais c'était encore le groupe macho. Comme il y avait avant. Et effectivement, sur les gens nouveaux, il y avait aussi des filles qui prenaient des responsabilités qu'il y avait. Et ça les a mis un petit peu aussi en face de leurs contradictions.
Je pense que là où ils se sont plantés aussi, c'est qu'ils s'attendaient qu'un certain nombre de gens militants, catalogués comme tels, se rangent de leur côté. Tonton parlait tout à l'heure du cœur entre deux chaises. Il y avait un certain nombre de gens à la fois militants, mais en même temps rock, contre-culture, etc., qui ont dit cette espèce de coup d'État, on n'en veut pas. Quoi.
Pourquoi vous êtes marré là, à l'instant? Qu'est-ce que t'as dit, Jean-Michel?
À Transistour, il y avait une espèce de... Je ne sais pas, moi, je n'y ai jamais participé. Une espèce de tradition où vous faisiez des séminaires. Ça, vous partiez tous le week-end, vous retrouviez... Mais Alain, on a tiré une bande dessinée qu'il a distribuée allègrement à tous les participants, où on faisait cas de certaines pratiques sexuelles lors de séminaires. Et ça les a vraiment fâchés.
Moi, j'en avais un peu marre de passer mon temps à prendre des leçons de féminisme par des espèces de ploucs, tu sais, qui te donnent des leçons de fierté féministe et tout ça, et qui vont en réunion politique là, faire des grands discours, pendant que Bobonne est à la maison à faire la vaisselle. Et bon, ça me sortait vraiment par les yeux. Et on avait effectivement une espèce de petite gazette interne. On avait un bon pote, Dominique, qui avait des photocopieurs à disposition, c'était très pratique. Donc on avait une petite gazette interne comme ça. Et à un moment, effectivement, j'ai commis une bande dessinée détournée, piquée à fluide glacial d'ailleurs. Et ça leur a pas plu du tout parce que, bon... Je mettais d'un côté leur langage technique au niveau de l'organisation de la radio, on veut monter des structures, etc., etc. Et en fait, les BD qui étaient là, c'était des partouzes. Donc, et alors là, ils ont complètement explosé, on s'est fait traiter de tous les noms.
C'est la BD la plus drôle des années 80, pourtant.
Ça doit valoir très cher maintenant, pour peut-être la rééditer, ça serait.
Bravo.
Et maintenant, Pauline Béton vous interprète « Oh, les livres de fesses !» Après 8 heures de quartier, je me suis décidé à entrer à des sourires caissiers, vu que je suis pas un habitué. Un habitué. Je veux y être l'auto-journal, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui met vraiment le moral, c'est plutôt les livres de fesses. Les livres de teux, les livres de fesses.
Oh, les livres de fesses!
Insensiblement, je m'éloigne vers des lectures un peu moins sages. Il va falloir une bonne poigne pour pas faire trop de rayonnage.
Oh, le rayonnage!
Un bref coup d'œil circulaire va lui permettre de foivir le spécial gros sein d'enfer avec lequel il va s'enfuir.
Il va fanfan, il va fufuir, oh, il va s'enfuir.
Enfin, j'arrive à la caisse et j'achète le télé 7 jours. Parce qu'avec les livres de fesses, ben, il faut quelque chose pour mettre autour. Pour mettre autour, pour mettre autour.
Ah, oh, pour mettre autour.
Alors, les 7 jours, 25 centimes, pantouze, 7,50, prends-moi salope. C'est combien, Solange, prends-moi salope?
15,20. T'as mis une poche plastique?
Ah non.
Puis-je prends transport en commun? Mais en m'agrippant à la barre, les revues me glissent des mains. Au moment où le train démarre, où le train d'été, où le train m'amarre.
Oh, le train démarre! Oh, c'est dégoûtant, tiens, voilà ce qu'ils font de la France, c'est des gens comme vous, des gros pains. Oh, c'est pas possible, non. Oh, mais ils sont dégoûtants, les gars.
Les livres de fesses des VRP, en hommage à la BD que Tonton réalise en 84 pour se moquer des gauchistes sentencieux de Transistour. BD qui fera déborder le lac et contribuera à accélérer la scission entre gauchistes et rockers. Les rockers fonderont Radio Garage qui deviendra béton, les gauchistes créeront une autre radio dont Jean-Michel se souvient.
Pour éclairer tout ça, après cette scission, le côté politique de Transistour ont monté une radio qui s'appelait Alice FM, que j'ai écouté, forcément, parce que c'était nos ennemis, on les appelait les Kioulés, c'était les cris dans la ville, c'était Kioulés dès qu'on l'envoyait. Et il suffisait d'écouter, et le discours politique, il était vide, ce qu'il racontait. Inintéressant au possible, décalé, et puis au niveau de la programmation musicale, ça ne donnait pas envie d'écouter, quoi, vraiment.
Il y avait quand même une sacrée contradiction entre une radio qui donne, entre guillemets, la parole au peuple, et quand des gens sont arrivés et ont commencé à prendre la parole, ils n'étaient plus les...
C'était pas le bon peuple.
Voilà, c'était pas le bon peuple. On n'avait pas la culture politique.
Ce pas bon peuple, on était un certain nombre à le trouver vachement sympa quand même et à pencher plutôt vers eux que vers...
C'est l'illustration en province de ce qui s'est passé à d'autres échelles avec les anciens Mao qui se sont convertis au libéralisme. Voilà, on pensera à Serge Julie.
Complètement, ils étaient tout à fait sur une logique comme Julie, quoi. Effectivement, c'est-à-dire... et le clash, il s'est fait... Bon, enfin, donc, il y a eu effectivement des conflits, c'est-à-dire qu'il y a des tensions dans la radio. Et en fait, le groupe historique s'est mis à refaire un autre projet, qui était un projet professionnel. Et un soir, nuitamment, ils sont venus et ils ont piqué le matériel. Entre guillemets, ils ont dit qu'ils l'avaient protégé contre nous.
On n'a pas fait de chanson quand il y a eu le putsch, on a fait une radio. Ouais. On a été plus efficaces.
Il faut dire qu'ils avaient prévu leur petit truc en douce, en envoyant des lettres sur le projet de Radio Alice à certaines structures tourangelles, les studios, entre autres, machin. Mais le monde étant petit, il y a des gens qui sont tombés dessus et qui nous disent « Vous avez vu le projet de Radio Alice ?» Et c'est là que le poteau rose a été découvert, quoi.
Quand je parlais de plan de carrière, c'était ça. C'est-à-dire qu'on était une équipe, et dans l'équipe en question, il y a un petit noyau qui s'est mis purement et simplement à comploter, comme ça que ça s'appelle. Ils ont fait leur truc dans leur coin, ils avaient décidé de piquer le matos. Alors techniquement, ils ont fait avaliser ça en faisant la veille ou l'avant-veille, je ne sais plus, en convoquant une assemblée générale. Ils ont tripatouillé, ce qui fait qu'ils se sont votés eux-mêmes la majorité. Donc ils avaient tout pouvoir. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux se sont retrouvés éjectés du droit de vote à l'Assemblée Générale. Et le lendemain, ils ont vidé le studio. Ils sont,
Non. Ils ont vidé le studio et ensuite ils ont fait l'Assemblée Générale ensuite.
Oui.
Pour avaliser donc ce coup d'État. Ce qui s'est passé, c'est que. On s'est retrouvé donc tout le monde devant ce coup d'État, mais en fait on se connaissait pas, c'est-à-dire que on n'avait aucune structure. C'est-à-dire qu'effectivement moi Jean-Mi Filmal, je les connaissais, mais bon on n'était pas proches du tout. Eux pensaient que j'étais plutôt avec le noyau historique. Et après le putsch, en fait, on s'est retrouvé mais des gens différents qui se connaissaient pas. Et c'est à partir de cette différence, à partir de ces envies qui étaient différentes, qu'on a réussi à monter un concept béton qui était intéressant. Parce que c'était pas un truc unique, quoi. C'était un regroupement de gens. Bon, qu'on a tous été révoltés par cette façon de faire. Et on s'est regroupés et on a dit, de toute façon, oui, il faut remettre, quoi. Bon,
c'était le ciment et puis c'était notre énergie de se faire tous virer comme ça et puis victime d'un coup d'État, quoi. Donc on avait une vraie légitimité d'être ensemble et puis l'envie de faire quelque chose, quoi. On n'était pas là simplement à faire des beaux discours, quoi. Nous, on avait envie d'inonder les ondes de la ville de rock'n'roll, quoi.
La légitimité, c'est tout ce qu'on avait, parce que faut bien voir que du jour au lendemain, donc on s'est retrouvé sans rien. On n'avait plus d'association, puisqu'on était officiellement plus rien. On n'avait plus de locaux, on n'avait plus de matériel, on n'avait pas d'autorisation, et en plus, on n'avait pas de pognon. Ça limite un peu les ambitions. Pour l'anecdote, les grands anciens politisés n'étaient pas tous dans le même camp, puisqu'il a été ressorti pour l'occasion un numéro unique du fameux journal en question qui s'appelait Le Petit Rouge de Touraine, entièrement consacré à l'histoire de la fin de Radio Transistour.
À la fois officielle, parce qu'on ressort la vérité officielle selon nous, mais en fait... Il y avait certains parmi nous qui avaient été recrutés par le colonel Kadhafi. C'est-à-dire que c'était un moment où les jeunes dans la galère, on était tous là-dedans. Et un jour, tu sors comme ça de la NPE et tu tombes sur un mec moustachu qui te dit « Vous voulez un peu de fric ?» Voilà, on tient à
faire tes gouttes.
On va faire nos bases en Occident et tout. Est-ce que vous pouvez monter une radio pour nous, mais discrètement, quoi, voilà. Donc en fait, c'est les Libyens et les Syriens qui sont derrière tout ça.
Mais la version officielle, c'est que vous vous êtes retrouvés après le putsch et puis que vous avez fait quoi ? Une cagnotte pour acheter du matos ?
En fait, c'est ça. En fait,
on a fait des bringues à l'auteur espagnol, oui.
En fait, on s'est retrouvés. Le matériel officiel de Transistour donc, était caché.
Protégé
dans une cave. Et nous, on s'est retrouvés, on connaissait quelqu'un qui avait monté une radio sur Tours professionnelle qui s'était plantée, et on a fait une cagnotte, on a racheté son émetteur, et je crois que dans la semaine ou dans les 10 jours, on a réémis sur la fréquence de Transistour, d'ici même, c'est-à-dire qu'on a monté un studio ici. On a commencé par être cool, c'est-à-dire que pendant une semaine, on a juste passé une mélodie. Comme ils avaient protégé le matériel, nous, on a protégé la fréquence.
Vous étiez teigneux.
J'espère qu'on est encore teigneux, malgré l'âge
attends,
venu.
Radio Transistour était officielle à l'époque.
Oui.
Radio Transistour avait une autorisation des mots.
Eux, ils n'étaient pas pirates.
À cette époque-là, c'était donc après Mitterrand, c'était la deuxième phase des radios.
Les radios commerciales.
Au début, les radios, tout le monde s'est installé, a fait des demandes de fréquences. Il y a eu une première attribution de fréquences. Et donc Transistour a eu sa fréquence. Mais nous, quand on a émis, là, on était vraiment hors la loi. Donc effectivement, il y avait les camions qui venaient d'Orléans de temps en temps pour nous chercher, mais qui ne nous ont jamais trouvés. On habitait au bout de l'autoroute et on les voyait arriver, nous.
Mais c'est les mêmes camions que vous voyez dans les films de la Seconde Guerre mondiale, là, avec les trucs au-dessus. Là. C'est les mêmes.
Mais de toute façon, ils savaient que ça se passait ici.
Bien sûr, les RG devaient savoir.
De toute façon, la fréquence était officielle. On s'est servi de la légitimité qu'on avait pour émettre, au début d'ailleurs, sous le nom Radio Transistour, pendant une semaine. C'est-à-dire pendant une semaine, on a fait une mélodie qui avait été composée sur un Casio, et en disant « Transistour continue ». À l'époque, disons qu'on aurait pu avoir des ennuis si les gens qui avaient piqué le matériel avaient porté plainte. Bon, ils n'ont pas été jusque-là. Ensuite, au bout d'une semaine, on s'est transformé en Radio Garage, c'est-à-dire qu'on on a repris les émissions qu'on faisait sur Transistour. On a émis un certain temps, je ne sais pas combien de temps, et ensuite on a recréé une structure béton et sur une autre fréquence.
C'est sur le 96 la fréquence qu'a repris après
96.3, c'était la radio dyslexique, parce que Transistour c'était 93.6. Et on a émis sur 96.3.
La fameuse fréquence qui nous a repiqué après la TAT.
Ouais. C'est ça. Avec les voix de Pascal et de Tonton, vous aurez entendu celle de Claude, un ex-transistour embarqué dans l'aventure Radio Garage. Claude, qui participe depuis à la galaxie béton. Il a tenu les barrières du concert du Lac d'Ocar de Tours pendant des années. Et pour Claude, un morceau qu'il m'a demandé, le psychédélique White Rabbit des Jefferson Airplane. Voilà qui entretiendra la rumeur qu'à ses débuts, Radio Béton était, je cite ce qu'en disent certains, ouvrez les guillemets, peuplés de bouffeurs de fromage de chèvre. Fermez les guillemets. Je répète, des babes auraient contribué à la création de Radio Béton. Il y aurait même eu un fan du groupe Magma parmi eux.
Mother gives you, don't do anything. Les petits lapins blancs du Jefferson Airplane, spécial dédicace à tous les babes et autres bouffeurs de fromage de chèvre qui sont à la création de Radio Béton avec des rockers et des gauchistes qui venaient de Radio Transistour, comme Pascal par exemple.
C'était quoi ton émission ?
Sur Transistour, bah, je faisais une émission avec Alain qui s'appelait Entrer dans la légende.
On était déjà mégalo déjà à l'époque.
Sur Béton, après, non, parce que bon, bah, les aléas de la vie ont fait que moi, j'étais plus trop sur tour, et puis Alain non plus, je crois. Ouais, j'ai fait quelques émissions au début sur Béton, mais c'est pas.
J'en ai eu plusieurs.
Avec d'autres formats, quoi.
Toi, Claude ?
Moi, j'ai pas fait vraiment d'émissions sur Béton, en fait. J'ai fait quelques émissions sur Transistour, qui étaient plutôt recevoir des assocs et donner la parole aux assocs, mais pas à la façon de nos amis dont on parlait tout à l'heure, qui voulaient donner la parole aux gens, mais qui parlaient à leur place en montrant qu'ils savaient bien tout, qu'ils avaient épluché le problème, mais en leur donnant vraiment la parole, quoi. Et à côté de ça, une émission sur l'Italie, des années de plomb, avec quelqu'un qu'on voit de temps en temps qui traîne par là. L'émission qui m'a le plus marqué, c'était une émission avec Eva Reich, la fille de Willem Reich, qui venait faire un truc sur l'école. Et j'étais pas encore dans ce milieu-là à l'époque, mais c'était sympa. Alors,
toi, tu étais plutôt dans les gauchistes ou dans les rockers ?
J'étais plutôt dans les anarcho-rockers, si tu veux. Voilà, c'est
ça. Transistour, historiquement, donc social clandestinité, avait été monté en fait avec des gens qui venaient de plusieurs origines. Il y avait une part donc des gauchistes et aussi une part des gens qui venaient plutôt des mouvements libertaires et anarcho. La scission a été faite aussi sur ces bases politiques, c'est-à-dire que les gens qui avaient une culture libertaire se sont retrouvés du côté des exclus. Et c'est pour ça que je dis que c'est la fin du gauchisme. Après 68, effectivement, il y a eu, mais alors je remonte loin, il y a eu donc une culture gauchiste maoïste qui s'est donc complètement perdu avec Libé, avec bon justement tous les bourgeois qui se sont dit qu'ils avaient grandi et qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose de leur vie. Mais par contre, il y avait aussi toute une lignée plus libertaire et des gens qui, je pense, étaient donc plus près du terrain et qui le sont toujours maintenant. Et c'est ceux-là qui ont été sur Béton.
Est-ce que faire de la radio, c'est faire de la politique ou c'est juste pour le fun ?
Pour moi, il y a les deux. Le fait de retransmettre des concerts, le fait de simplement de passer les groupes qu'on aime et qui passent pas ailleurs ou très peu, de faire découvrir des trucs pas possibles à des gens, c'est le fun. Quand on fait des appels à l'émeute à l'antenne pendant une semaine, c'est effectivement de la radio politique. Il n'y a jamais eu de grand débat pour savoir si on devait suivre telle ligne ou telle autre, on n'a rien à secouer. Et puis quand le pape est venu, bah, tout ce qui a été fait, ça s'est fait complètement naturellement. Il y a eu encore au moins une intervention relativement musclée, c'était pas Le Pen, c'était l'autre nain, là, Bruno Maigret, qui était venu au Halles, où là c'était un petit peu rock'n'roll aussi la soirée. C'était complètement spontané, complètement naturel. Comme attitude. C'était pas quelque chose de calculé à la mode gauchiste, c'est-à-dire, tiens, on va se réunir, et puis il y a telle tendance qui dit oui, mais il faudrait plutôt faire ça. Jamais, jamais il y a eu ça. Mais il y avait les deux, tout le temps.
À l'époque, tout le mouvement du rock alternatif et tout ça était extrêmement politique.
Pas politisé avec les bases comme vous, je dirais vous, parce que toi tu fais partie de cette culture, mais c'est vrai que c'était l'époque, le début des SOS racisme, tout le monde avait son badge, touche pas à mon pote, donc la jeunesse, les groupes, tout le monde était dans cette mouvance-là. Donc forcément, Béton était l'expression de tout ça.
Ça me fait penser à un truc qui était un des passages du dernier article de Tonton dans le Petit Rouge de Touraine au moment où il est parti voir un peu ailleurs. Où il mettait que des fois un morceau de musique fait plus que 3 heures de discours fleuve politique par ce qu'il contient.
Bah bien sûr, le truc le plus flagrant, c'est le slogan des Bérus, la jeunesse emmerde le Front National. Ça a été fédérateur pour toute une génération. Ils y connaissaient rien, ils savaient pas ce que c'était, mais au moins ils étaient quelque part, voilà, il y avait une posture. Ils ne se sont pas forcément posés de questions.
Le monde est très vrai pour choisir, les hommes se comportent comme les morts, les vaches en batterie, avec milliers de temps de mort. Sur son débit, nous sommes dans un lit d'Arrejac et partout c'est le roi du vin. Pensez, prostitution organisée, plus des passions j'ai mélangé, le tiers monde crève les bancs comme la tension monte et tient gré. Massacrer dans les abattoirs, brûler dans les laboratoires, marcher dans les sites de l'endroit, prisonnier derrière ton palois. Pensez, pensez. Pensez, pensez.
en les fous du gouvernement, en Europe des robes trop vite, en les bouchons des Allemands. Une armée qui part du bourreau, et ça se voit tu as la violence, le temps devient plus clair. Marcherez, marcherez. D'un côté système monétaire, de l'autre le rebond militaire, pour finir en règle en bon, à vous le chat, le soir et non. Marcherez, 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 marcherez.
Porcherie des Bérus, live. On poursuit avec Claude Tonton et Jean-Mi.
Faire Radio Béton et écouter Radio Béton, c'est être très très de gauche en 1984, 85 et par la suite.
Pas forcément de gauche, c'était plutôt être impliqué dans la vie locale, quoi. On a fait des concerts, on a été les premiers à vraiment faire des concerts réguliers, donc ça, pour l'animation culturelle de la ville, si c'est un mot qui sent mauvais, c'est pas grave, mais ça a été quelque chose. C'était un désert au niveau de la musique, tout autour.
Concerts à la Fauvette.
Voilà, ah. Des concerts partout. L'idée de pondre un festival gratuit. Ça, j'insiste sur le truc gratuit, parce que malheureusement, au quart, c'est plus gratuit maintenant, mais c'est plus possible que ça soit gratuit, je suis bien d'accord. Mais c'était cette démarche-là. Je trouve ça hautement politique de faire un festival gratuit, dire on offre aux gens, voilà, on vous offre un super plateau avec de la musique, venez, ça va vous coûter rien du tout. Pour moi, c'est un acte politique.
On saute à 1985, puisque tu viens de parler d'Ocar.
Il lève la main, le tonton.
Oui, ouais, parce qu'il y a quelque chose que Jean-Mi va pas dire, c'est que c'est lui qui a trouvé le nom. Mais il est modeste comme garçon, donc...
C'est la genèse en merde, le Front National.
Mais il y a eu, au tout début de Béton, des gens qui sont arrivés de partout. On avait nos réunions tous les lundis soirs. Tous les lundis soirs, il y avait des personnes nouvelles qui avaient envie de soit venir causer dans le poste, soit venir faire des choses avec Béton, parce que c'était un truc qui naissait pour la ville, c'était important. Pour toute une génération, c'était le seul truc qui ressemblait à quelque chose, quoi.
On est à une époque où Internet est loin d'exister.
Et où... Le portable n'existe pas, l'ordinateur n'existe à peine. Hein. Et puis
le Sinclair ZX81.
où les policiers ont encore des képis et pas des casquettes plates comme les Américains.
Entre nous, la ville était beaucoup plus douce que maintenant aussi. Ils avaient peut-être des képis, mais c'était quand même plus facile de traîner et puis on se faisait pas arrêter comme maintenant. Donc c'était une autre époque. C'était plus facile, je pense.
Tu trouves que ça s'est tendu, toi?
Bien sûr.
Non, mais même au niveau social, c'était quand même beaucoup plus cool. Il y avait beaucoup moins de chômage, beaucoup moins de pauvreté. On était encore un petit peu dans le rêve de 81. L'avenir était beaucoup moins fermé que maintenant.
Oui. Tout était inventé, même au niveau de la radio. Même au niveau de la radio, moi je fais partie des gens qui j'écoute de la radio depuis que j'ai 8-10 ans. Donc je suis vraiment un fan de radio. Si je suis arrivé là, c'est parce que j'avais envie de faire de la radio.
Des images, il ne comprend pas.
Je ne vois plus rien maintenant. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire.
C'est dit, 1984, le rêve mitterrandien, c'est fini. On est déjà...
Pour ceux qui l'ont fait. Bon, continue.
Non mais voilà, il y a eu 2 ans d'illusion et puis très rapidement, on en arrive à transformer en choses rentables des entreprises publiques. On commence à nous parler de rigueur, on commence à nous parler de privatisation, on commence à nous...
Oui, mais ça en fait, on s'en est pas aperçu tout de suite parce que ça, on en avait l'habitude avec Giscard, hein.
Et il y avait quand même, faut lui reconnaître ce truc-là, il y avait quand même Lang qui a amené un truc et on a suivi.
Jacques Lang, le ministre de la Culture de l'époque, le créateur de la Fête de la Musique.
La Fête de la Musique,
le
tout
ça. Le créateur du ministère de la Culture, d'ailleurs.
Le ministre de la Culture à vie et pour des siècles encore. Mais c'est vrai que c'était un grand ministre de la Culture. Il a fait, voilà. Donc il y a eu toute cette dynamique là. Donc il y avait Béton, mais il y a eu plein de choses qui se sont créées, des structures qui ont été parachutées, qui ont fait qu'il y a eu un mouvement général. Derrière, les gens ont eu cette culture du rock, et donc nous, on a proposé des choses. Il y avait des, entre guillemets, je ne vais pas dire des clients, mais des amateurs pour ça. Ça nous a facilité la tâche, quoi.
C'est marrant ce que vous disiez sur la douceur de la vie, etc. Parce que moi, Mino, à l'époque, j'ai l'impression que c'est hyper tendu.
Beaucoup moins que maintenant.
Moi, je fais partie des gens, j'ai collé des affiches très longtemps, j'ai fait des bombages dans la rue. Jamais.
Toi ?
Pas tous, parce que c'était à l'époque, il y avait un type qui est très connu maintenant qui s'appelle Jeff Aerosol, qui expose dans des grands musées, qui était prof et qui était à Tours. Et donc c'était un ami, et voilà, j'étais dans la voiture, on faisait des bombages. Et jamais on s'est fait plaquer contre la voiture quand on s'est fait contrôler par les flics. Ils trouvaient ça de rigolo. Ils disaient, ouais, mais débordez pas trop, ou faites ça propre, ou ramenez vos bombes. Mais on faisait ça propre. Mais jamais il y avait. Là, ça serait un type qui fait des bombages sur des palissades, il n'y en a plus. Mais ils se font. Il y a 2 voitures de flics qui arrivent, plaquées, fouillées, et puis au commissariat. Donc c'est un autre état d'esprit. Là, maintenant, ça ne rigole plus, quoi. Ça rigole plus. Moi, j'ai des gamins qui ont l'âge que j'avais à l'époque, et qui traînent, et c'est pas simple pour eux. C'est pas simple pour eux.
Au cœur de la ville endormie repose 7 millions de gens soumis. Personne ne peut hurler la nuit. Je le clochard sous le pont Marie. Dans les rues, il n'y a plus ces matons. Tous les apaches sont en prison. Toutes ces icanes, ça sent pourri. Paris va crever d'ennui. Qui règne à la mairie, veut que tout le monde aille au Luxembourg. Les lits qui restent sont interdits, on fait cette galerie. Merci. Allons enfants de la patrie, contre nous de la tyrannie, dont nous abreuve ce élu par de sinistre corps.
Yeah. Ronde de nuit, la Mano Negra. Vous êtes toujours avec les aventures de Claude, Tonton, Pascal et Jean-Mi font de la radio pirate. 1984, Radio Béton, c'est pirate, c'est interdit, puisqu'elle n'a été légalisée qu'en 90. Et pourtant, on voulait s'émettre d'ici et...
On a émis en pirate, on a arrêté d'émettre, et l'association existait, il y avait eu des manifs en ville pour le redémarrage de Radio Béton. On était une radio, on n'émettait pas, il fallait qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'Au quart de tour. C'était pour faire un truc, pour dire on existe encore, quoi.
Radio Béton, c'est une radio pirate. 1984, 1985, c'est pirate.
À la création, oui.
Pas longtemps, parce que comme on avait envie d'avoir la fréquence, on a arrêté d'émettre pour se mettre un peu dans la légalité, pour déposer notre dossier. Parce que effectivement, si on avait émis en pirate, qu'on avait déposé un dossier pour avoir la fréquence, on n'aurait jamais eu la fréquence.
Ouais.
Parce qu'en plus, on a été un petit peu, quelque part, si je me souviens bien, et si l'histoire qu'on avait racontée à l'époque est vraie, on a été les victimes de la première cohabitation, en fait. C'était la ministre de la Culture, la dernière ministre de la Culture de gauche, Cotta, qui la veille, la gauche avait perdu les élections, donc le gouvernement allait passer un gouvernement de droite, Cotta a signé l'interdiction de quelques radios en France, dont Radio Béton, donc comme des sales gosses comme nous, répartis sur le territoire, comme ça pour filer une patate chaude à celui qui arrivait derrière, c'était Léotard, en se disant, il va être dans la merde.
François Mitterrand, président socialiste, reste président, par contre, changement de majorité au Parlement, changement de gouvernement, et la droite au Parlement, et chez les ministres.
Voilà. 86, oui. 86. Mais juste avant, il y avait un fils de ministre qui était dans les radios libres aussi.
Filliou.
Patrick Filliou.
Qui était effectivement un historique des radios libres illégales dans les années fin des années 70. Ouais. Je crois qu'il était radio ouverte, mais je ne suis pas sûr.
Gilda, c'est le premier réseau. Ce qui est le plus drôle, c'est que papa était ministre. Papa avait fait voter une loi interdisant les réseaux de radio. Et le fiston, dans le même moment, créait l'un des premiers réseaux de radio. C'est-à-dire que c'était le foutoir complet. Ça, faut le savoir.
Comme en fait Radio Alice avait existé, ils avaient gardé la fréquence et nous, on avait réémis sur une autre fréquence, mais qui était illégale.
D'accord, c'est ça.
On a été pendant 2 ans pirates. Pirates entre guillemets, c'est-à-dire qu'on émettait sans autorisation.
On avait déposé une demande.
Ce qui nous permet de poser une demande, bien sûr.
Ce qui nous permettait légalement d'émettre.
Voilà, c'est ça.
Le fait d'avoir déposé le dossier nous permettait d'émettre.
Le fait d'avoir déposé un dossier nous donnait une légitimité à émettre.
Voilà.
Mais
personne nous a emmerdé avec ça.
En fait, c'est qu'il y avait de l'entraînement pour être capable d'émettre quand le temps serait venu. Et malencontreusement, il y en a qui ne s'y connaissaient pas dans les boutons, qui laissaient le bouton ouvert et ça émettait sans qu'on le sache. Quoi.
Je sens qu'il y a, il y a du réglage de compte. Là.
On ne sait pas lire l'anglais. On, off, on ne sait pas.
Donc 84-86, c'est illégal, mais toute la ville de Tours sait que ça se passe ici, puis à l'amphi, enfin on sait très bien.
Parce qu'il y a des concerts ici, il y a des émissions en public, il y a une session de Alan Jack, je ne sais pas si quelqu'un a ça, il y a eu un concert d'Alan Jack mémorable en dessous, là, retransmis sur Radio Garage à l'époque. Plein de groupes de Tours sont venus jouer là. On avait le soutien de tout le milieu musical. Tous les groupes nous soutenaient. Donc il y avait quand même... si on se faisait emmerder, ça bougeait un petit peu, quoi. Parce qu'il y avait des manifestations spontanées en ville. On n'était pas du tout initiateurs de manifestations en soutien de Béton, mais il y avait des gens qui faisaient des manifs pour soutenir Béton.
1986. Michel Cotta passe la patate chaude de l'interdiction de Radio Béton.
C'est elle qui interdit Radio Béton. Voilà, la veille de partir, la veille de quitter son ministère, elle signe une liste comme ça en se disant « Celui qui va arriver derrière, il va se prendre tous les hurlements de tous ces sauvages partout. » Un des conseillers de Léotard, c'était Donadieu de Vabre, qui nous a envoyé un courrier en nous disant « Je veux bien vous recevoir pour vous arranger l'histoire, mais je veux être au courant, savoir ce qui se passe. » Et comme c'était un collaborateur de Léotard, ça s'est arrangé. Mais il n'y a pas eu de compromission. Et on est allé juste expliquer notre truc, et puis ça s'est arrangé très bien.
Donc on a eu notre autorisation, et ça a été à ce moment-là où on a déménagé, à peu près à ce moment-là où on a déménagé à Saint-Symphorien.
Ouais, c'est ça.
L'autorisation, vous ne l'avez quand même pas eue juste en la demandant et en claquant des doigts. Ça a été un petit peu plus ardu que ça, non?
On a couché.
Avec Donadieu de Vabre.
Pascal Audry a couché avec Michel Cotta, le lendemain on était interdit.
Et Tonton a couché avec Léotard et on était plus interdit. Merci Tonton.
De rien. Pour parler des compromissions, effectivement, il n'y a jamais eu de compromission. Et c'était la même chose avec la mairie de Tours, qui était à l'époque l'ineffable Jean Royer. On a déménagé dans des locaux municipaux. On n'a jamais eu le moindre problème. Pourtant, on lui en a tassé à l'antenne autant comme autant. Et bon.
Moi, je voudrais revenir à la période de l'interdiction quand même, parce que moi, j'étais minot à l'époque. Il s'est quand même passé des choses entre le moment où tombe l'interdiction et le moment où on dit aux gens de Radio Béton, OK, vous pouvez y aller officiellement. Allez-y. Il s'est passé des événements quand même. Moi, il me semble être allé place Jean Jaurès faire des manifestations.
Voilà. Il y a effectivement eu un mouvement, enfin une espèce de... Nous, on n'était pas du tout initiateurs de ça, ça, je crois pas. Hein. Il y a eu une espèce de mouvement spontané chez les jeunes, enfin qui est plus jeunes que nous. Mais effectivement, il y a eu des manifs, je crois que c'était tous les vendredis soirs, pendant au moins 2 mois, il y avait des rassemblements qui avaient plus de 500 personnes.
Il y en a eu une dont on a été à l'origine. L'interdiction est tombée le 29 ou le 30 juin, enfin un plan comme ça, genre la veille des départs en vacances. Et on a réussi à tirer des tracts à la photocopieuse et à rameuter du monde. Le slogan, c'était « Radio Béton paye à boire à tout le monde ». Et on avait ramené place de l'hôtel de ville des palettes entières de canettes. Et il y avait eu un bon millier de personnes. Bon, celle-là avait été plus ou moins organisée par Béton. Mais les autres étaient spontanées, oui.
Pourquoi vous avez créé au quart de tour? Puisque cette...
Disons qu'à l'époque, oui, voilà, c'est une idée. C'est Tonton. Il faut dire que Tonton, c'est quelqu'un qui a 10 idées par jour, dont 9 qui sont à chier. Mais ça veut dire quand même qu'il a quand même beaucoup plus de bonnes idées que la majorité des gens. Et un soir, il s'est dit, ah oui, tiens, si on faisait un concert gratuit...
C'était un après-midi pluvieux sous un pont d'autoroute entre Niort et Tours. Je sais pas, il a dû me raconter. Non, j'étais là.
On s'est dit, ils sont en train de refaire le monde, et à mon avis, comme ils ont peu de souvenirs, ils sont en train de raconter des conneries.
Ainsi s'achève le deuxième épisode de Radio Garage. Ne ratez pas le troisième volet de cette série, du garage aux musiques actuelles.